Salut, c'est Quentin, bienvenue dans l'émission Il y en a qui bossent. Émission des artisans qui vivent de leurs mains et qui créent leur travail. Il y en a qui bossent, chaque semaine, un homme, un lieu, des produits, du savoir-faire. Bonjour, c'est Quentin, toujours pour l'émission Il y en a qui bossent. Aujourd'hui, on est à Plégean, près de Martiel, avec Mme Sandra Lemoine, pour nous raconter un petit peu le vin qui est fait ici. Donc, bonjour.
Bonjour.
Voilà, je vous laisse vous présenter, expliquer un peu qui vous êtes et qu'est-ce qu'on fait là.
Voilà, donc Sandra Lemoine, je suis vigneronne à Martiel. Ouais. Et depuis maintenant, depuis 2003, voilà, je me suis installée en 2003 et j'ai planté à partir de 2004. Donc c'est une création complète, hein, les vignes, le chai. Voilà, tout a été bâti dans ces dates-là, quoi, à peu près.
Comme vous dites, vous êtes parti de rien, vous avez créé tout de toutes parts. Pourquoi ici, alors, quand vous avez senti l'endroit ?
Eh ben, parce que d'abord il y avait un passé viticole ici, mais qui est très ancien, hein, qui est voilà. Donc et puis au départ, c'était parti simplement. Avec des voisins, on avait commencé à faire un peu de vin, voilà, et puis ça m'a plu. Et puis j'ai pensé à ce moment-là à faire des études de viticulture, d'œnologie. Donc j'ai passé un BTS il y a une quinzaine d'années. Hein, c'était dans le cadre d'une reconversion professionnelle, hein, parce que c'était pas mon vrai métier.
Vous faisiez quoi
avant ? Avant, je travaillais dans la logistique. Voilà. D'accord. J'étais cadre dans la logistique et j'ai travaillé une dizaine d'années dans ce domaine-là. Voilà.
Donc à la base, c'est une passion et vous en avez fait autre.
Voilà, après, c'est une passion. Et puis voilà, j'ai eu envie de faire ce métier-là, enfin de m'intéresser au vin. Et puis après, il y a eu quelques opportunités pour trouver des parcelles. Alors, j'ai défriché à plusieurs des parcelles où il n'y avait vraiment rien. Il y avait de la prairie, ou au mieux il y avait de la prairie, au pire il y avait un peu de broussailles, et ouais. Voilà, tout est parti de là. Et puis, voilà, un hectare, et puis deux, et puis trois, et puis voilà, quoi.
Alors, quand vous dites qu'il y avait un passé viticole, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire de passé viticole d'ici ?
Alors, il y a eu un passé, quand je dis très ancien, ça remonte au temps des Templiers, parce qu'il y a une commanderie qui est sur la commune de Martiel. Et donc, voilà, et il y avait des registres comme quoi il y avait de la vigne dans ce coin-là, quoi. Ça s'appelle la commanderie, c'était la commanderie de l'Espinassière, qui est un lieu dit, hein, ben, voilà, qui il y a encore actuellement une cave d'une maison très ancienne où étaient stockées les barriques, hein, donc qui est vraiment quasiment, c'est presque un monument, cette maison, donc voilà, c'est très ancien, et il y avait même les moines de Martiel, enfin comment ça s'appelle, le nom m'échappe.
Le nom des moines.
Non, mais il y a un monastère sur la commune de Martiel, qui est sur la route de Montauban là. Ouais. Moi, j'ai complètement oublié.
Ça va vous revenir quand on aura fini l'enregistrement.
Et donc, oui, c'est ça. Ça va revenir à ce moment.
Faites des recherches, chers auditeurs. Faites des recherches.
Voilà. Donc. Voilà, donc il y a eu un passé très ancien. Bon, après, tout a été évidemment arraché. Et puis.
Mais donc, vous viviez ici, vous avez eu l'idée de faire du vin près de chez vous, vous êtes venu vous installer ici, quoi.
Moi, j'ai. Enfin, après, je suis venu pour des raisons familiales ici, quoi. Hein,
d'accord.
Voilà. J'avais pas spécialement. Je suis pas venu ici spécialement pour planter de la vigne. Ça s'est trouvé comme ça par hasard, quoi. Voilà. Hein, et il s'est trouvé que, bon, après, j'ai fait quelques recherches et en ayant quelques infos sur le coin, sur les terroirs et tout ça, voilà, j'ai eu envie de planter à ce moment-là, quoi. Voilà.
D'accord. Voilà. Pour le choix du cépage que vous utilisez, parce qu'il se trouve qu'on a un très bon vin à côté de chez nous, à Villefranche-de-Rouergue. Alors ça, c'est une des premières choses que moi, j'étais surpris de voir, tout simplement, en allant au Café Brasse. Où j'ai vu la première fois votre vin. Mmh. Et j'ai goûté votre vin, j'ai bu, j'ai aimé et j'ai rebu après, par la suite, ce vin-là. On a un super vin qui est à côté d'ici. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il est fait, quel était le choix du cépage à la base, et un peu raconter dans les grandes lignes la manière dont vous travaillez ici. On est dans la cave au milieu des grandes cuves, là. C'est très joli, ça sent très bon. Et je vous laisse un peu en parler.
Ouais, en parlant de brasse, justement, il y a eu le sommelier là, qui est venu il y a une dizaine de jours.
Sergio
non. C'est son adjoint.
Du café brasse, d'accord.
Ouais, okay. Du café brasse. Et ouais, il est venu justement goûter un petit peu le vin.
D'accord.
Bah, carrément à la cuve. Hein. Donc voilà. Alors bon, je travaille principalement avec du matériel, ce qu'on appelle des cuves, hein, des cuves inox, et des cuves en fibre de verre, matière synthétique. Ouais. Donc ce qu'on fait, on vendange d'abord manuellement. Justement pour garder un maximum de qualité. On vendange avec des bacs plastiques ajourés, hein, qui se trouvent.
Que je vois.
Que vous voyez.
Dans la mezzanine.
Voilà, c'est ça, il y a une plateforme au-dessus, on les stocke là-haut. Donc justement, c'est comme des cagettes à fruits, hein, c'est exactement le même principe, ouais. On les stocke dedans. Et parce que les vignes sont quand même à 3-4 km du chai. Donc,
d'accord.
Pour les transporter d'une manière, je dirais, la meilleure possible, voilà, c'est transporté dans ces cagettes-là.
Okay.
Ensuite, une fois qu'on les a ici, ces cagettes, on les monte sur la plateforme et on travaille avec un fouloir et grappoir. C'est une machine qui se trouve qu'on met juste au-dessus des cuves. Et qui a deux opérations. L'une, c'est de dégrapper, c'est-à-dire de séparer les baies de la rafle, c'est-à-dire la partie verte de la grappe, et on récupère que le grain, voilà, et c'est foulé. Ensuite, voilà.
Donc deux opérations. Comme à l'époque avec les pieds, quoi.
Exactement. Et donc après, ça tombe dans la cuve. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait partir ensuite après la fermentation. La fermentation avec les peaux et le jus.
Voilà. D'accord.
Donc ça fermente, pour un rouge, ça fermente à peu près une semaine.
Oui.
Une petite semaine. Pour un rosé, un blanc, c'est plutôt deux semaines, quoi, à peu près.
D'accord.
Voilà. Ouais. Bon, le blanc et le rosé, ça se travaille autrement. Le rosé, c'est des cépages noirs qui sont soutirés pour être pas trop coloré, juste rose, et ça fermente sans les peaux, voilà, ce qui fait la différence avec le rouge. Le blanc, par contre, nous on le récolte et on le presse de suite, donc entièrement, les grappes entièrement, c'est-à-dire les rafles, les baies, tout passe au pressoir.
Très bien.
Donc on a un gros pressoir.
C'est un choix, tout le monde ne fait pas comme ça.
Non, parce que après il y a différents types de vinification. Hein.
Ouais.
Tout le monde n'a pas forcément le même process pour voilà. Après ce sont des choix personnels et puis ce sont aussi des choix surtout en ce qui concerne les blancs. Ce sont les cépages qui nous poussent à travailler d'une certaine manière plutôt que d'une autre.
C'est-à-dire, vous parlez à l'expérimentation, ou vous avez vraiment, dès le début, vos méthodes de travail étaient déjà bien calées
et... Alors après, par exemple, en ce qui concerne le chardonnay, pour faire le blanc, c'est un cépage qui demande à être pressé de suite.
D'accord.
Voilà. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai étudié. C'est, je dirais, globalement, ça se fait un petit peu partout comme ça.
Oui.
Parce qu'après, effectivement, vous pouvez fouler grapper des cépages blancs et les faire macérer, par exemple. Voilà, avant fermentation. Mais bon, pour le chardonnay, ça n'a aucun intérêt. Voilà.
Ok.
D'accord. Donc après, ça dépend ce qu'on recherche, en fait. Donc il y a le côté de ce que je veux faire moi, et puis il y a aussi ce que, je dirais entre guillemets, la nature me pousse à faire aussi, quoi.
C'est-à-dire
c'est ce que je disais, il y a certains cépages qui demandent à être travaillés plutôt d'une certaine manière plutôt que d'une autre.
Ouais.
Pour optimiser, je dirais, Par exemple, voilà, le chardonnay va donner plus d'arômes, son potentiel va être beaucoup plus exprimé, je dirais, en le pressant comme ça. Okay. Voilà. On a un autre cépage blanc, par exemple, le Gewürztraminer. Lui, on le presse aussi de suite quand on l'a récolté. Mais si je voulais, je peux avoir l'option de le fouler, l'égrapper, et puis le laisser macérer, par exemple, 24 heures à froid, comme ça.
Gustativement, ça changerait quoi ?
Ça changerait que lui aurait peut-être plus tendance à libérer des arômes encore un peu plus puissants. Quoi. Voilà. C'est vraiment le cépage qui va pousser à travailler d'une certaine manière pour optimiser, quoi, je veux dire, pour faire un... Voilà, pour en tirer tout le potentiel possible. Quoi.
Très bien.
Voilà.
Et au niveau de ce que... Comment ça s'est passé, pour en revenir un petit peu dans l'histoire, au début, parce que c'est pas évident quand même, j'imagine, de s'installer et de décider de faire du vin, pour avoir aujourd'hui la réputation qu'il a, ce vin, ça s'est fait comment, à quelle vitesse ça a pris, enfin, raconte un peu l'histoire du domaine dans ses débuts.
Ça a pris un petit peu de temps, hein, le temps de se faire connaître, parce que bon, on n'est pas spécialement dans une région viticole.
C'est pour ça.
Donc c'est pas facile. Je suis pas portée par une appellation. Il n'y a pas une appellation derrière moi, donc. Et puis aussi, il y a un petit peu des a priori de la part des gens, parce que les vins d'ici. Autrefois, ben, chacun faisait son vin là, à la ferme,
ouais.
Et c'était souvent d'abord des hybrides, les cépages,
ouais.
Que tout le monde connaît plus ou moins, hein, si ouais. Le grand-père avait ça, ou etc., donc tout le monde connaît un peu ces cépages, et ça faisait des vins extrêmement durs, quoi, avec des petits degrés, et puis qui se conservaient pas toujours très bien, bon.
Ouais.
Alors forcément, quand on arrive et qu'on dit bon ben voilà, moi je fais du vin à Martiel, c'était pas forcément gagné quoi. Ouais. Hein, c'était, il y avait des a priori par rapport à ça.
C'est-à-dire que les gens se disent c'est un vin de paysan, ça va être fait n'importe comment. Et...
Voilà, c'est du vin, c'était du vin un peu âpre.
Ouais.
Voilà, hein. C'était un peu du vin comme ça et voilà, donc du coup c'était un peu cette image-là qui était restée un peu dans l'esprit des gens. Donc ça a pris un certain temps. Pour dire ben non, parce que voilà, on peut travailler autrement et faire du vin qui se boit bien, quoi. Voilà.
Ouais.
Donc ça m'a pris, je dirais, bon, j'ai commencé à commercialiser en 2007. Ben
d'accord.
Oui, il a bien fallu au moins 5 ans, 6 ans globalement pour changer aussi, bon, puis il faut se caler aussi soi-même, hein, faire au départ on tâtonne aussi, moi je dis pas que au départ je savais pertinemment ce que j'allais faire, tout ça. Les premières années j'ai essayé telle chose, et puis jusqu'au moment, ben, on finit par connaître son terroir, ses cépages et comment les travailler,
le climat aussi peut-être un peu,
oui, le climat aussi, oui, oui, bien sûr, il faut faire en fonction du climat.
C'est assez particulier ici parce qu'on n'a pas un grand ensoleillement. Si, c'est
si,
correct.
Si, on a
je
un
sais
grand,
pas où sont
on a
vos vignes.
Un grand ensoleillement. Elles sont en coteaux, hein, voilà, et puis sur des sols argilo-calcaires, très calcaires.
Mmh.
Alors l'avantage qu'on a d'être ici, c'est qu'on a des étés très chauds. Avec cette des fois même un peu trop chaud, comme l'année dernière. Qui fait que les pierres qui sont sur le causse, là, c'est vraiment de la pierre calcaire qui emmagasine bien la chaleur et qui la restitue bien la nuit. Donc si bien qu'en fait on a des chaleurs qui sont assez constantes même la nuit, quoi, en fait. Hein.
Okay.
Et ça c'est important pour les maturités parce qu'on est quand même un peu en altitude là sur le plateau.
Ouais.
Et du coup, on peut avoir des nuits fraîches. Mais grâce à cette chaleur emmagasinée au niveau du sol, ça, au niveau des grappes, ça reste assez constant.
Okay.
Du coup, on vendange quand même assez tôt. Par rapport à, je dirais, à mes collègues qui sont sur l'Aveyron et qui généralement vendangent plutôt deuxième quinzaine d'octobre.
Ouais.
Nous, ici, on commence, certains cépages, on commence déjà mi-septembre.
D'accord.
Donc, on a quand même pas mal d'avance... Voilà. On n'est pas aussi précoce qu'à Gaillac, par exemple, mais on est bien plus en avance par rapport à Marcillac, par exemple.
Ouais,
voilà. Bon, on n'a pas tous les mêmes cépages, mais Voilà, c'est ce qui veut dire qu'il y a quand même, il y a quand même des avantages à être ici, quoi. Voilà, sur ce plateau-là, sur ce côté de Villefranche. Après, là, les autres terroirs, les autres sols autour de Villefranche, je connais moins. Mais ouais. Voilà.
Ok. Et ça, vous avez adapté au niveau du combien de temps vous avez mis pour faire le vin dont vous êtes, pas fier, mais le vous avez dit là, ça me ressemble. Là, c'est un peu ce que j'ai envie de faire. C'est combien de temps ça a pris comme ça pour trouver votre cuisine en fait?
Bah oui, c'est ça. Bah ça m'a pris bien 3-4 ans hein, pour trouver. Après, parce que maintenant il y a différents types de cuvées. Hein. Il y a la cuvée César, il y a la cuvée Benjamin.
Vous pouvez nous parler un peu justement de ces cuvées-là, dans leurs particularités que vous faites.
Particularité. Donc ça c'est depuis 2011 à peu près. Hein, vous voyez, ouais. c'est pas si vieux que ça. Ouais. Et après, bon, la cuvée César, je l'ai quasiment commencé très tôt en fait. Hein. C'est un assemblage de Merlot 60% et 40% de Cabernet Sauvignon. C'est du vin de goutte, donc c'est le premier vin qui est soutiré de la cuve. Mmh. Et il est élevé principalement en cuve. Voilà, il a un élevage assez court, donc ce qui fait que on part sur un vin qui est plutôt fruité, plutôt léger, un peu gouléant, enfin voilà. Et la cuvée Benjamin, on est sur le même assemblage, c'est du Merlot et du Cabernet Sauvignon.
C'est qui Benjamin ?
C'est mon fils.
D'accord.
Voilà. Et César, c'est mon grand-père.
D'accord.
Et la cuvée Benjamin, ça s'est élevé en barrique. Voilà. Alors, c'est de la barrique neuve, c'est de la barrique d'occasion. Alors la barrique neuve, pourquoi ? Parce que ça apporte du tanin, c'est beaucoup plus boisé. On y retrouve aussi un peu des arômes de clou de girofle, enfin des choses comme ça, quoi. Mmh. Et puis la barrique d'occasion, c'est plus léger, c'est moins toasté. Voilà, la barrique neuve, ça toaste vraiment le vin. Donc voilà, on est sur deux vins rouges. Avec le même assemblage, on part sur deux produits différents, quoi, en fait, hein, parce qu'ils sont pas élevés de la même manière. Et puis après, on est après sur les blancs. Le blanc, c'est un assemblage. Alors j'ai fait le premier blanc, c'était un 100% chardonnay. Et puis après, j'ai eu du Gewürztraminer qui arrive en production en petite quantité. Et puis ça, c'est à la dégustation. Hein, au départ, c'est un assemblage qui étonne un peu. Enfin, les gens qui connaissent un peu le vin, c'est soit du Chardonnay, soit du Gewürz. Mais on les assemble rarement. C'est pas de la même région, c'est pas du même coin. Voilà. Mais après,
un Anglais, il ne saurait pas commander ce vin-là. Quoi. Parce qu'il commande toujours un cépage directement. Et
oui,
c'est vrai que c'est deux cépages.
Oui, c'est vrai que les Anglo-Saxons font souvent comme ça. Ouais.
Un Chardonnay, souvent, c'est
ouais,
ça. Quoi.
Exactement.
Au restaurant,
ouais.
C'est ça.
Oui, oui.
Avec du Gewürztraminer.
Voilà. Et puis finalement, à la dégustation, je me dis, je vais essayer. Et puis, c'est vrai qu'en mettant 80%, on était à 80% de Chardonnay et 20% de Gewürz. Parce que le Gewürz, c'est très, très aromatique. Hein,
ouais.
Donc, ça prend vite le dessus. Mais c'est vrai que les vins, même si j'en mettais encore 30%, c'est juste ce qu'il faut. Quoi. On le sent et ça donne un vin un peu muscaté.
Ouais.
Mais pas, il n'est pas trop dominant. Quoi. Voilà.
Ouais.
Et puis, le Chardonnay, ça apporte un peu de minéralité.
Ouais.
Voilà. Donc... Ouais. C'est vrai que c'est assez, c'est un peu, ça surprend. Et c'est vrai que là, souvent, quand je fais goûter à des sommeliers et tout ça, ils cherchent l'assemblage.
Ouais.
Ça leur dit quelque chose, mais ils n'arrivent pas à trouver, parce que c'est un peu particulier, quoi.
Et c'est très, très bon. Je peux me permettre de le dire, moi, je l'adore vraiment, quoi.
Bon, très bien, merci.
Ah, je ne suis pas le seul.
Et puis après, il y a le rosé. Le rosé, on est sur de la Syrah, il y a 50% de Syrah. Et puis, il y a 50% de Cabernet Franc. Voilà. Donc ça, c'est le rosé, c'est mon premier vin. C'est celui que j'ai fait en 2006. Et puis, on est resté à peu près toujours dans le même registre, parce que c'était très complémentaire aussi. La Syrah, c'est en rosé, c'est très, très aromatique.
Mmh.
Et le Cabernet Franc ou Sauvignon, parce que des fois, je mets un peu de Sauvignon dedans, Cabernet Sauvignon. Ça fait que c'est un vin rosé un peu, un tout petit peu corsé, quoi. Voilà, ouais. c'est pas un rosé de Provence, quoi. Ça n'est pas, voilà. Moi, je cherchais pas trop à faire ça non plus.
C'est un rosé de Martial.
C'est un rosé de Martial, voilà. Tout à fait. Voilà.
Pour conclure, on arrive un petit peu au bout de l'entrevue. Où est-ce qu'on peut trouver vos vins? Est-ce qu'on peut venir vous visiter? Est-ce qu'il y a un site internet?
Oui. Alors, on peut venir. Oui, il y a un site internet comme ça d'information. Et puis, on peut venir à la cave, à Martial. Voilà. Bon, il faut quand même m'appeler parce que je suis pas toujours sur la cave. Les vignes sont pas à côté. Et puis, autrement, on peut me trouver sur Villefranche, effectivement. Je suis à Saveur Paysanne, par exemple. Je suis productrice associée. Donc, il y a des gens qui connaissent maintenant quand même ce magasin qui existe depuis 5 ans. Ouais. Et puis, autrement, je suis chez Philippe Lafont, caviste. Voilà.
Grand caviste.
Un grand caviste, tout à fait, tout à fait. Et puis, après, il y a différents petits points de vente. Et puis, voilà, après, dans la restauration aussi.
Quelques bonnes tables. On ne citera pas le nom, on n'est pas là pour se faire de la pub. On parle de vous aujourd'hui.
On ne citera pas le nom, voilà. Voilà. Et puis après, sur d'autres endroits, sur l'Aveyron.
C'est le domaine Plégean, donc Plégean, Pleyjean. Voilà.
C'est ça.
Forcément, évident dans la prononciation. Mais merci beaucoup pour cette petite entrevue.
Eh bien, merci à vous. Merci.
À très bientôt.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Chaque semaine, un homme, un lieu, des produits et du savoir-faire. Il y en a qui bossent. Émission des artisans qui vivent de leurs mains et qui créent leur travail.
On a besoin de temps pour décompresser et souffler. Oublier que tous les jours il faut lutter, ne pas couler, au moins flotter, au mieux naviguer. Tenter de garder le cap sans s'avirer, on peut échouer. Et là vaut mieux savoir ramer pour regagner la terre ferme. Attention, une fois qu'il y est, c'était un lapin, les chasseurs faut éviter. T'es ambitieux, traîne pas trop devant la télé. Si tu reviens de vacances, c'est que t'es un peu trop bronzé. Oublie pas tes fapes avant d'aller te balader. Sois pas trop blasé. Allez, seuls les stances sont distribués. Ça manque jamais de volontaires pour te coller du tartare gommé.